Chapitre 35. 28 novembre 2010. Plutôt que de téléphoner à Paul, j'ai préféré me rendre directement au 36. À chaque fois que je pénètre dans cette institution, j'ai une pensée pour Louis Jouvet, qui n'a jamais dû y mettre les pieds. On m'a demandé d'attendre son retour et on m'a installé dans son bureau. Partout sur les murs, des numéros verts. Violence conjugale, addiction, effet du cannabis, agression sexuelle. Des numéros magiques à composer pour résoudre l'indicible. Je pense à Lies et aux autres victimes de Charpie. Combien y en a-t-il eu? Si Lies avait pu, à l'époque, composer ce numéro de téléphone magique, le cours des choses aurait-il changé? Charpie aurait-il été jugé? Et si oui, combien d'années de tôle aurait-il pris? Mais on ne compose pas un numéro de téléphone quand on a 7 ans. Ce téléphone-là, il pèse des tonnes. Quand on a 7 ans, on ne dit pas qu'un monsieur autoritaire nous a fait mal. On a honte, on se sent sale, parce qu'on n'a rien fait pour l'en empêcher. On n'ose pas pleurer dans les bras de sa mère. On se tait. On connaît tous des victimes et on connaît tous des prédateurs. On leur serre la main, on leur demande des nouvelles. Le silence qui entoure les bourreaux et leurs proies est vertigineux. La sonnerie du téléphone sur le bureau de Paul me fait sursauter. Je crève d'envie de répondre. Est-ce l'hôpital de Caluire? Un des bourreaux de ce monde est-il mort? Ou est-ce le magistrat en charge de l'enquête sur l'identification de Blanche qui cherche à joindre Paul?
T'es là,
constate-t-il, surpris, en débarquant derrière moi. Cette fois, je ne suis pas venu pour lui poser des questions à propos d'un film, mais pour qu'il me parle de mon histoire. Je l'interroge sur Soutkovski. Est-il toujours vivant? Paul me répond que oui. Je m'assure qu'il ne peut pas faire semblant d'être dans le coma, qu'il ne peut pas s'échapper. Il est dans un coma stade 3, coma profond. Je lui raconte dans les grandes lignes ce que j'ai appris sur ma naissance de la bouche de l'ancienne employée municipale, Cécile Aubert.
Ça corrobore ton ADN.
Ouais, ça corrobore. Tu as écouté la cassette retrouvée dans le cercueil? Il hoche la tête et déverrouille un tiroir.
Tiens, en voilà une copie.
Je le regarde, stupéfaite.
Il y avait deux cassettes, me dit-il. La première date de 1985, au moment où on t'a offert ton magnétophone, et l'autre est plus récente. Je les ai numérotées, une et deux.
Tu as le droit de me les donner?
Ce sont des copies, et non, j'ai pas le droit. Mais comme elles te concernent, j'enfreins la loi. Pour toi, Agnès, ce sera pas la première fois.
Je n'ose pas les prendre.
Elles sont à toi.
Un, deux, trois. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Avant de faire le paquet cadeau, Anna m'a demandé de mettre des piles et de vérifier l'appareil. Je suis caché dans la chambre de ma sœur. J'entends Anna, Agnès et Colette parler dans la cuisine. Ce soir, nous allons fêter le réveillon de Noël, le 13e Noël de notre fille. Ce soir, Anna et moi allons lui offrir un magnétophone. C'est le cadeau qu'elle souhaitait. Je suis seul, assis sur le lit, là où tu as donné naissance à notre Agnès. Je suis seul de toi, depuis la nuit où tu lui as donné naissance. Je suis un homme seul de toi, qui teste le jouet de notre fille. Et je n'effacerai pas cet enregistrement. Je ne le réécouterai pas non plus. Je vois que ça a l'air de fonctionner. Une lumière rouge m'indique que ma voix est capturée sur la bande magnétique. Je la confierai à Colette tout à l'heure, pour qu'elle te la remette un jour, si elle te retrouve quelque part. J'ai toujours pensé que tu reviendrais. Vers Colette, vers moi ou vers Agnès. Anna m'a dit qu'elle t'envoyait des portraits d'Agnès en poste restante à Lyon. Je me suis toujours demandé comment tu faisais pour récupérer les enveloppes, toi qui n'as pas de pièce d'identité, toi qui n'existes pas à cause de lui, et qui existe tant pour ceux qui t'aiment. J'ai souvent réfléchi à la manière dont je pourrais te délivrer. J'ai même pensé à payer une fortune pour le faire exécuter, lorsque je suis lâche et n'ai pas l'âme d'un assassin. Mais je n'ai pas eu le courage, à cause d'Agnès, d'Anna et de Colette. On finit toujours par remonter vers le commanditaire, et je ne peux pas imaginer être séparé d'elle. Je réalise ce que je suis en train de dire, je suis vraiment trop con. Tu écouteras ma connerie. J'ignore ce que je représente pour toi. Qui je suis, en dehors de la rencontre d'une nuit qui a laissé son empreinte pour l'éternité à travers Agnès. Un abruti qui n'a pas su te protéger. Depuis sa naissance, je joue pour elle. Je joue pour vous, pour toi, Anna et Colette. Surtout quand j'ai Bach sous les doigts. Bach me ramène systématiquement à vous. J'ai toujours inclus ma sœur dans notre histoire. Que se serait-il passé sans elle? C'est drôle. Quand je t'ai vue la première fois, j'ai cru que tu étais elle. Et au fur et à mesure que la soirée s'est déroulée comme sur un tapis volant, tu t'éloignais complètement de Colette. L'enveloppe n'est rien. Ce qui compte, c'est le mouvement. Exactement comme une symphonie. Je suis seul de toi dans la chambre de Colette et je me demande ce que je te dirais si tu étais là, près de moi. Merci, tu m'as manqué. Tu me manqueras. Mon cœur est brisé. On peut vraiment aimer deux femmes avec la même intensité. On peut, crois-moi. Je pourrais me dire que je ne te connais pas, que je ne t'ai connu que quelques heures. Sauf qu'une heure peut contenir le monde entier. Nous nous sommes connus pour faire Agnès. Notre passé, notre présent, notre futur lui appartiennent. Quand je suis arrivé chez les Lévitans, avec notre fille de 10 jours dans les bras, il y a eu un miracle. Je me souviens que pendant notre nuit, je t'ai parlé de David et Elia Lévitan, de leur déportation, de lui et de son piano, d'elle et de sa voix qui s'était éteinte au retour. Plus jamais on a entendu Elia chanter. Le rossignol d'Auschwitz était mort. Elle était seule et silencieuse dans la cuisine qui puait le chou, comme d'habitude. Je suis rentré dans l'appartement en disant « C'est moi !» J'ai toujours eu les clés. Je les ai toujours gardées, même après leur mort. Quand elle m'a vu avec le bébé dans les bras, elle a écarquillé les yeux et murmuré quelque chose en yiddish. Nous sommes restés face à face quelques secondes, puis sans lui laisser le choix, je lui ai tendu ma petite pour qu'elle la prenne. Je vous présente ma fille, elle s'appelle Agnès. Mon trésor, je te présente Elia, mon amie. Elle ne m'a posé aucune question, alors qu'elle savait qu'Anna n'avait jamais été enceinte. Elle a tiré une chaise vers elle, s'est assise avec Agnès dans les bras. David était absent. Nous étions tous les trois. Agnès dormait, ses poings serrés. Elle portait un joli manteau de laine. Elle était habillée tout en blanc, comme le jour d'un baptême. Je les ai laissés faire connaissance toutes les deux et je me suis mis au piano. J'ai joué les premières notes du concerto numéro 23 de Mozart. Après quelques minutes, j'ai entendu des voix. Étaient-ce les voisins ou des sons qui parvenaient de la rue? J'ai cessé de jouer. La cuisine. Elia, qui était aussi muette que les carpes farcies qu'elle nous servait chaque samedi, était en train de chanter pour ma fille. Je me suis dissimulé derrière la porte et j'ai vu Agnès, les yeux grands ouverts, écouter religieusement l'inconnu qui tutoyait les anges en la berçant. Barcarolle, les contes d'Hoffmann, d'Offenbach. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la voix d'Elia. Elle ne lui ressemblait pas. Une nuée d'oiseaux exaltés dans la gorge. La figure d'un vieil amiral en bout de course. Une dichotomie ahurissante. Ce matin du 1er novembre 1972, jour des morts, j'ai assisté à la résurrection d'Elia Lévitan, qui était morte en Pologne. Je suis resté caché. Comme en ce moment dans la chambre de Colette. Je n'ai pas voulu interrompre leur échange. J'ai pensé à toi à cet instant, un peu plus que d'habitude. J'ignore combien d'années je vivrai. J'ignore si je te reverrai un jour. Je ne suis jamais repassé devant le cabaret des oiseaux. J'habite même le quartier. C'est étrange d'en rêver et de le redouter à la fois. Te croiser. Que deviendrions-nous si par malheur ou par joie, nous tombions l'un sur l'autre? De notre nuit, il me restera ta symphonie pour l'éternité. Quand je t'ai raconté mon enfance, que tu as compris que j'étais le frère de Colette, la petite fille de l'école qui te ressemblait, celle qui t'apportait à manger, tu as pris mon visage entre tes mains et tu m'as répété « le petit frère qu'elle aimait tant ». Et tes mains étaient douces comme les premiers soleils au printemps. J'ai fermé les yeux, je me souviens. J'ai fermé les yeux et toi tu as laissé tes mains sur moi. Et je t'ai embrassé. Je n'avais jamais embrassé personne le premier. Tu es mon premier pas. J'ai rouvert les yeux, j'ai vu les tiens, profonds. Quelque chose en toi était en retrait. Instinctivement, je savais que tout ce que nous vivions serait éphémère, que tu ne resterais pas, que je t'avais déjà perdu avant de te rencontrer.
Quelqu'un frappe à la porte et entre. Je reconnais la voix d'Anna.
Tu viens, Jean ?
J'arrive.
C'est bon, ça fonctionne ?
Ça fonctionne.
Qu'est-ce que tu fais ?
Rien, j'arrive.
Fin de l'enregistrement.